France Culture, il est midi 31, tout de suite le journal. Et on a retrouvé Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les plus hauts magistrats dénoncent les outrances de François Hollande. Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation estiment que les propos du chef de l'État sur la lâcheté des magistrats sont une humiliation et posent même un problème institutionnel. Analyse dans un instant avec Stéphane Robert. À quelques mois de la présidentielle, les évêques de France publient une lettre inquiète aux habitants de France, intitulée « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». Lettre dont nous parlera Louis Bel-Enfant dans cette édition. Les autorités allemandes s'expliquent ce matin sur le suicide en prison du réfugié allemand soupçonné d'avoir planifié un attentat à Berlin. Les autorités pénitentiaires de Saxe. Pour les autorités pénitentiaires de Saxe, le suspect a été retrouvé pendu hier dans sa cellule, mais ne présentait pas de risque de suicide imminent. Correspondance à Berlin avec Cyril Sauvageau. Au Yémen, les États-Unis bombardent pour la première fois les rebelles chiites houthis, accusés d'avoir visé des navires de guerre américains en mer Rouge. Analyse de la situation avec Eric Biegala, et puis la mort de l'écrivain et acteur italien Dario Fo, 90 ans, considéré comme l'un des auteurs italiens les plus novateurs et qui avait obtenu le prix Nobel de littérature. Nous sommes en 97, on aura le prix Nobel 2016, sans doute tout à l'heure à 13h. Sa vie, son œuvre avec Cécile de Carvaz-Douay, l'invité de la séquence interview, Aude Lancelin, auteur d'un livre intitulé Le Monde Libre, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia.
Alors effectivement, on attend le prix, le nom du lauréat du prix Nobel de littérature. Réaction à chaud à l'annonce d'Oslo autour de 13h quand on connaîtra le lauréat. Et puis notre invité est l'essayiste, professeur de littérature française à Paris 8, Pierre Bayard, pour son essai « Le Titanic fera naufrage ». Question sous-jacente, l'écrivain peut-il prédire l'avenir, l'anticipation comme genre littéraire, avec lui tout à l'heure.
Comme on pouvait s'y attendre, les magistrats ont très violemment réagi ce matin aux propos de François Hollande sur la justice. François Hollande qui affirmait que la justice est une institution de lâcheté dans un livre de commentaires, de confidences confiées à des journalistes. Tous ces procureurs, tous ces hauts magistrats, on se planque, disait-il, on joue les vertueux, on n'aime pas le politique, la justice n'aime pas le politique. Riposte donc ce matin des magistrats, le premier président de la Cour et le procureur général de la Cour de cassation, ce sont les plus hauts magistrats français. Estime que ces propos sont une humiliation et posent même un problème institutionnel. On écoute le premier président de la Cour de cassation au micro d'Armel Balogog.
Il n'est pas concevable que la charge de président de la République, qui comporte la responsabilité constitutionnelle de garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire, puisse être utilisée par son titulaire pour contribuer à diffuser parmi les Français une vision aussi dégradante de leur justice. Il est plus que temps que le pays se saisisse de la question essentielle de la place dans les institutions de l'autorité judiciaire, afin que celle-ci s'émancipe enfin de la tutelle de l'exécutif où la maintient une tradition monarchique d'un autre temps, inadaptée aux exigences de la séparation des pouvoirs dans une démocratie moderne.
Voilà, propos très vif, enjeu important. Bertrand Louvel, le premier président de la Cour de cassation ce matin. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Alors, une telle crise entre le judiciaire et le politique n'avait pas éclaté aussi ouvertement, en tout cas depuis longtemps. A priori, on ne s'attendait pas à une telle dégradation avec François Hollande. Que veut dire le président d'abord quand il dit que la justice n'aime pas le politique? Et puis, que signifie maintenant dans la bouche des magistrats, on vient de l'entendre, ces fameux problèmes institutionnels que posent ces déclarations?
Alors, pour vous répondre, je vais vous rapporter ce que m'expliquait il y a quelques minutes le Conseil institutionnaliste Dominique Rousseau. Les propos de François Hollande posent effectivement un grave problème institutionnel, dit Dominique Rousseau. C'est aussi grave que lorsque Nicolas Sarkozy avait qualifié les juges de petits pois. Pourquoi ? Parce que selon les institutions de la Ve République, on vient de l'entendre, le président est le garant de l'indépendance de l'institution judiciaire. Or, quand François Hollande parle d'engeance à propos de la magistrature et quand il dit que l'institution judiciaire est une institution de lâcheté, au-delà de l'insulte, il exprime là le fait qu'il estime qu'elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner et il érode l'autorité des juges, des magistrats, de l'institution tout entière. Et c'est d'autant plus grave, poursuit Dominique Rousseau, que l'institution judiciaire est l'un des deux piliers de la démocratie avec le suffrage universel. Et puis plus grave encore, s'il faut encore en rajouter, François Hollande lui-même, lors du discours de Wagram le 8 septembre dernier, s'était déclaré garant de l'état de droit. Et enfin, il y a quelques jours, le 7 octobre, il avait assisté au congrès annuel de l'USM, l'Union syndicale des magistrats, le principal syndicat de la profession. Il avait salué la grandeur de la justice. Certains s'étaient levés pour l'applaudir. Avec ses propos, c'est donc en parjure qu'apparaît là François Hollande. Mais ça n'est pas nouveau, hein, conclut le constitutionnaliste Dominique Rousseau. Le politique s'est toujours méfié du monde judiciaire, nous dit-il. La première grande loi de la Révolution de 1789 est une loi contre les juges. Elle leur interdit de s'immiscer dans les affaires exécutives et législatives. De la même façon, par la suite, on crée le référé législatif qui leur interdit cette fois d'interpréter la loi. Donc, nous dit Dominique Rousseau, ça n'est pas la justice qui n'aime pas le politique, c'est l'inverse. Et ça depuis toujours. Et le problème de François Hollande est que jusqu'ici, il avait donné l'impression de ne pas être dans cette défiance-là et il bénéficiait à ce titre d'un certain crédit auprès de la profession.
Merci beaucoup Stéphane Robert. On salue l'invité de la séquence interview, Aude Lancelin, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler tout à l'heure de votre livre qui raconte, explique, met en perspective votre éviction du Nouvel Observateur, Nouvel Obs en mai dernier. Mais un mot d'abord sur François Hollande. Comment vous expliquez, par exemple, qu'il se livre aussi fréquemment à des journalistes, au risque donc de voir, comme on le voit aujourd'hui, ses confidences se retourner, exploiter contre lui?
C'est vrai qu'au-delà des propos parfois inacceptables qui ont été tenus, je pense aussi à ceux sur l'immigration ou l'équipe de football française, ce que je retiens, moi, c'est un chiffre. Je retiens 61 rencontres. Et je trouve ça absolument effarant. Quand on sait que par ailleurs, François...
61 rencontres pour ce livre, non? Ou pour l'ensemble des livres?
Pour ce livre.
Donc il faut multiplier par autant de livres.
Quand on sait que par ailleurs François Hollande rencontre très fréquemment toutes les rédactions de Paris, les convie à l'Élysée lors de déjeuners ou de rencontres particulières, on se demande effectivement s'il ne pense pas que gouverner la France, c'est manipuler les journalistes. Et le problème, c'est qu'il n'y arrive pas parce que, si vous voulez, pour se faire rouler dans la farine à ce point, c'est absolument spectaculaire. Hein. Le livre sort aujourd'hui au plus mauvais moment pour lui.
Puisque l'Obs s'est précisément fait sa une alors, sur Je suis prêt, François Hollande.
Alors, le Nouvel Observateur, mon ancien journal, a effectivement déclenché cette opération in extremis comme un contre-feu. Hein, prévenu de la sortie imminente du livre.
C'est un contre-feu.
L'Élysée a demandé cette interview et Arnaud Montebourg, hein, qui devait faire la une du journal, a été décommandé au dernier moment sans qu'on lui donne jamais la véritable raison de la chose, puisqu'on lui a dit qu'il s'agissait des primaires de la droite. Mmh. Il a découvert dans le journal que François Hollande avait demandé 9 pages pour s'exprimer.
Apparemment, le contre-feu a fait un peu long feu. Aude Lancelin, merci beaucoup. On vous retrouve donc tout à l'heure pour la séquence interview. On salue aussi l'invité de la dernière partie de la grande table, donc l'écrivain Pierre Bayard. Bonjour.
Bonjour.
Écrivain et psychanalyste. Donc, vous allez peut-être nous dire pourquoi François Hollande se met dans une telle situation.
Freud faisait une hypothèse très étrange dans les années 20, celle de la pulsion de mort, à savoir qu'une partie de notre énergie psychique serait retournée contre nous-mêmes, ce qui paraît complètement invraisemblable. Beaucoup de psychanalystes d'ailleurs ont toujours récusé cette idée. Je trouve qu'ici on a une sorte d'exemple de ce retournement de l'agressivité contre soi-même. Comment peut-on se mettre dans une situation pareille, en agressant toute une corporation, en décourageant la gauche avec les propos sur l'immigration? J'invite ceux qui, comme Michel Onfray, ne croient pas dans la conceptualité freudienne à étudier l'exemple de François Hollande.
Pierre Bayard, merci beaucoup. On vous retrouvera avec plaisir tout à l'heure donc pour votre livre « Le Titanic fera naufrage » aux éditions de Minuit. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle et voici que les évêques de France publient une lettre qu'ils qualifient de « lettre inquiète aux habitants de France ». Un texte intitulé « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». On y est précisément. Sur le constat, les évêques semblent partager les inquiétudes communes sur la classe politique. Pour commencer, on peut lire ainsi « L'attitude et l'image de quelques-uns jettent le discrédit sur l'ensemble de ceux qui vivent l'engagement politique comme un service de leur pays. » C'est ce que disait notamment le président de la conférence des évêques, donc Mgr Pontier, par ailleurs archevêque de Marseille. « La parole a trop souvent été pervertie, utilisée, disqualifiée. » Louis Bel-Enfant.
Oui, les petites phrases, le jeu des postures, les ambitions personnelles, tout ça ne fait qu'alimenter le désenchantement du politique. Beaucoup d'élus ont perdu de vue l'intérêt général. Mais c'est aussi vrai, déplorent les évêques, d'une partie de la population française. La contestation est, je cite, « devenue le mode de fonctionnement habituel. Chacun se raidit sur ses positions. Les étrangers n'arrivent plus à trouver leur place dans la société. C'est le triomphe du « moi » sur le « nous ». La France, conclut les évêques, a perdu le sens du vivre ensemble.
Alors, Mgr Pontier affirme par ailleurs que que l'ambition donc des évêques, c'est de fournir des éléments de réflexion et de pointer des exigences pour répondre à cette question. Comment redonner un souffle, une vision commune pour que les Français divers puissent retrouver des raisons de vivre ensemble, tout un programme.
Et cette réflexion se veut en dehors de tout clivage politique, mais bien ancrée en revanche dans la culture chrétienne. Il y a d'abord cet appel à la culture du compromis, compromis politique qui permettrait de dépasser les querelles partisanes et de proposer une vision de la France sur le long terme, compromis également sur l'identité. Les évêques appellent à redéfinir ce qu'est être citoyen français, trouver une nouvelle définition qui puisse prendre en compte toute la diversité de notre société. Il y a urgence, disent les évêques, car c'est notamment un problème d'intégration qui, selon eux, pousse certains jeunes à rejoindre les rangs du groupe État islamique. Et puis, sans surprise, il est aussi question dans cette lettre de laïcité. Éliminer les religions de la sphère publique serait une grave erreur pour les auteurs du texte. La France se priverait d'indispensables régulateurs sociaux et sociétaux. La laïcité doit rester, écrivent-ils, un cadre juridique et non un projet de société.
Louis Bel-Enfant, merci. Les autorités allemandes se sont expliquées ce matin sur les raisons qui auraient pu permettre le suicide en prison de ce réfugié syrien qui est soupçonné d'avoir planifié un attentat à Berlin au nom du groupe État islamique. Le suspect a donc été retrouvé pendu hier soir dans sa cellule alors même qu'il devait faire l'objet en principe d'une surveillance particulière du fait de son tempérament suicidaire. Mais les autorités pénitentiaires de Saxe sont tentées de se défendre ce matin, Cyril Sauvageau.
Oui, beaucoup de questions et des critiques virulentes vis-à-vis des autorités saxonnes. Comment Jaber al-Bakr a-t-il pu mettre fin à ses jours alors qu'il était, vous l'avez dit, placé sous étroite surveillance à l'infirmerie de la prison? L'avocat du détenu parle d'un scandale judiciaire. À Berlin, le gouvernement fédéral veut des éclaircissements. Le ministre de la Justice de Saxe, Sebastian Genco, a donc commencé par donner quelques éléments factuels.
À 19h45 hier soir, lors d'une visite de contrôle, une employée de la prison a constaté que le détenu s'était pendu à une grille de sa cellule à l'aide de son t-shirt. Ce suicide n'aurait pas dû se produire, hélas, c'est arrivé même si nous avons tout mis en œuvre pour l'éviter.
Est-ce que tout a été mis en œuvre? Le directeur de la prison de Leipzig, Rolf Jacobs, affirme que les procédures ont été respectées, que les médecins ont été écoutés. Mais selon eux, dit-il, Jaber al-Bakr ne présentait pas de risque imminent de suicide.
Il nous a semblé calme et lucide. Il n'y avait aucun signe de défaillance émotionnelle, comme on peut parfois en observer chez les nouveaux détenus. Nous avons donc décidé de mettre en place des contrôles réguliers toutes les 15 minutes.
Des contrôles tous les quarts d'heure, puis toutes les demi-heures, insuffisant donc pour empêcher Jaber al-Bakr de se pendre. Le chef de l'autorité pénitentiaire a beau répéter qu'il est possible de se suicider dans n'importe quelle cellule, ses propos ne suffiront pas à éteindre la polémique et un sentiment de gâchis. Les enquêteurs se retrouvent privés d'une source d'information essentielle, disait ce matin le chef du premier syndicat policier en Allemagne.
Cyril Sauvageau, en direct de Berlin. Il y a quelques minutes, au congrès de son parti à Glasgow, la dirigeante écossaise Nicola Sturgeon annonce son intention de présenter la semaine prochaine, un nouveau projet de loi pour un référendum d'indépendance. Elle estime que le vote pour le Brexit a changé les termes d'appartenance donc de l'Écosse au Royaume-Uni. On y reviendra sans doute dans notre édition de 18h. C'est une première. Les États-Unis bombardent les rebelles houthis au Yémen. Washington les accuse d'avoir visé des missiles, des bateaux de guerre américains en mer Rouge. Ce que les rebelles ont démenti ce matin, ce sont des bombardements américains qui sont menés avec des missiles de croisière Tomahawk qui ont visé donc 3 stations radars. Ils sont soutenus par l'Iran, ces houthis de confession chiite. Ils sont engagés avec les forces de l'ex-président Ali Abdallah Saleh dans une guerre civile meurtrière contre les forces loyalistes qui, eux, sont, elles, soutenues par une coalition arabe dirigée par l'Arabie Saoudite. Et le paradoxe, Eric Bégala, c'est que cette intervention américaine contre les Houthis est survenue alors même que Washington était en train de réexaminer son soutien à la coalition arabe, dont les frappes au Yémen sont particulièrement meurtrières.
Oui, Antoine, c'est paradoxal, mais c'est pas non plus totalement un hasard si l'échange se produit en ce moment. La première attaque, celle des Houthis, et qui a visé au missile un destroyer américain date date de dimanche, quelques heures en fait, après le bombardement par la chasse saoudienne d'une cérémonie d'enterrement au Yémen, une attaque qui avait fait, elle, au moins 140 victimes civiles. Le tir des Houthis contre des navires croisant dans le détroit de Bab el-Mandeb peut en l'occurrence être interprété comme une opération de représailles. Le Yémen est soumis à un véritable blocus maritime par les navires saoudiens et il y a fort à parier que c'est ce type d'objectif que visaient les Houthis. L'US Navy, de son côté, avait notoirement renforcé sa présence sur la zone. Dimanche, cette même Navy avait fait mine d'ignorer les missiles Houthis. Hier, alors qu'elle était de nouveau visée, elle a lourdement répliqué, tirant ses propres missiles de croisière sur 3 postes radars côtiers yéménites, lesquels auraient été détruits selon un porte-parole du Pentagone. L'échange est à vrai dire assez musclé. Les missiles antinavires tirés par les Houthis sont de type Silkworm, une arme chinoise datant des années 60 et probablement issue de l'arsenal iranien. Ce ne sont pas des armes légères. Chaque missile fait la taille d'un petit autobus et transporte au bas mot une demi-tonne d'explosifs. La réponse américaine aux missiles de croisière Tomahawk est du même acabit. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis font usage de la force au Yémen. Leurs drones frappent régulièrement les djihadistes d'Aqaba, Al-Qaïda, dans la péninsule arabique. Mais c'est la première fois qu'ils interviennent directement dans le conflit qui oppose Houthis et fidèles de l'ancien président Saleh d'un côté, saoudiens et soutien du président Abdrabo Mansour Hadi de l'autre. Au moment même où Washington envisageait de limiter son soutien à la coalition arabe dans cette guerre suite au bombardement de samedi, la marine américaine semble vouloir, elle, s'y engager plus franchement.
Merci beaucoup Eric Biegala. Dernier sujet de ce journal avant de retrouver notre invité. La mort ce matin annoncée de l'écrivain et acteur italien Dario Fo, qui était prix Nobel de littérature 97. Il avait 90 ans. Et Cécile de Carvaz-Webb, c'était l'auteur de théâtre italien le plus joué dans le monde après Goldoni.
Oui, pour comprendre la carrière, l'immense carrière de Dario Fo, il faut sans doute se rappeler la phrase qui accompagnait son Nobel en 97. Pour Dario Fo, qui, en s'inspirant des bouffons du Moyen-Âge, fustige le pouvoir et réhabilite la dignité des opprimés. Né en 1926, issu d'une famille d'ouvriers démocrates et antifascistes, Dario Fo commence par étudier l'art et l'architecture avant de se lancer, avec sa femme Franca Rameux, dans le théâtre satirique. Ensemble, ils fustigent par le théâtre, des institutions et les classes dirigeantes, avec une fantaisie débridée qui inspirera toute la renaissance internationale de la Commedia dell'arte. C'est en 1969 que Dario Fo connaît un grand succès international avec le Mystère Bouffe, une épopée des opprimés inspirée de la culture médiévale, où le héros, un jongleur, enseigne la révolte, mais la révolte par le rire. Communiste, anarchiste, artiste engagé, connu pour sa plume inventive, ces dernières années, Dario Fo avait fait sien le combat du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo contre la classe politique italienne classique et surtout pour la défense de la culture. Écoutez-le.
Pendant cette campagne électorale, j'ai remarqué que toutes les interventions des politiques, toutes tendances confondues, à la télévision ou même dans les théâtres, n'ont à aucun moment évoqué la culture.
Senza dire poi della sparizione dei teatri. Solo a Milano, dal dopoguerra ad oggi, sono stati smontati.
Il ne parle pas, par exemple, de la disparition des théâtres, transformés en supermarché, en banque ou en agence commerciale.
La bellezza di 8 teatri storici.
Si on calcule le nombre de théâtres disparus en Italie, on arrive à 428. C'est un massacre.
Et le paradoxe, c'est que la mort du prix Nobel le plus drôle d'Italie a soulevé ce matin un raz-de-marée d'hommages venus justement des politiques italiens.
Cécile de Carvaz-Webb, merci beaucoup. Donc c'est la séquence interview qui commence avec notre consoeur Aude Lancelin. Bonjour, bonjour. Vous avez été licencié, on peut dire assez brutalement, il faut le reconnaître, il y a maintenant un peu plus de 6 mois, enfin c'était au mois de mai, du Nouvel Observateur. Vous étiez directrice adjointe. Vous vous en expliquez dans un livre intitulé Le Monde Libre. Sur le bandeau du livre, on peut lire cette phrase: une plongée sans précédent dans la servitude des médias. Première question, pourquoi, selon vous, avez-vous été licencié?
Écoutez, comme on le lit partout maintenant, il semblerait, oui, qu'une connexion de la pire espèce se soit établie entre l'actionnariat et une présidence de la République aux abois, très inquiète par la perspective de l'élection prochaine.
Alors, en quoi vous êtes inquiétante pour eux?
Pardon?
En quoi vous auriez été inquiétante pour eux?
Eh bien, écoutez, j'ai fait ce qu'on m'avait demandé, c'est-à-dire ouvrir la ligne du journal à toutes les sensibilités de la gauche,
Donc ça veut dire quand même à la gauche de la gauche. Parce
des
que...
sensibilités, oui, mais des sensibilités frondeuses, des gens libres intellectuellement, et ainsi qu'on me l'avait demandé. Mais au bout d'un moment, la ligne du journal a été verrouillée. Manifestement, une reprise en main a eu lieu en coulisses. Et il n'y a plus que l'entre-soi qui soit supporté.
Alors votre cas, si je puis dire, est très intéressant aussi, peut-être pour l'époque, parce que vous êtes passé finalement du statut de poil à gratter ou de dissidente, ou de celle qui franchit parfois les lignes de ce qu'on appelle la pensée commune. Vous êtes passé de ce statut où vous étiez utile en tant que tel, en tant que poil à gratter, et puis à un statut où vous êtes nuisible précisément pour jouer toujours ce rôle. Donc le système ne vous supporte plus du tout. Qu'est-ce que ça signifie selon vous ?
Oui, effectivement. Je pense qu'on peut parler d'un changement d'époque. Oui, effectivement, on peut voir mon rôle au sein de l'Obs pendant longtemps comme celui d'un alibi idéologique. Hein.
D'autres... Non, enfin, pas seulement alibi, mais si, vous étiez directrice adjointe.
J'étais numéro 2.
Ça veut dire qu'on comptait sur vous pour...
Absolument, pour les idées et la culture notamment. Mais ainsi que d'autres membres d'une gauche un peu moins alignée sur le PS, en interne, ça a été absolument compliqué de faire passer ces choix-là. Et je constate malheureusement que ce journal qui a commencé sous les auspices de Sartre et Foucault, licencie aujourd'hui des gens parce qu'ils donnent la parole à Jacques Rancière ou Olivier Roy. Voilà.
Ou Alain Badiou.
Ou Alain Badiou.
Question d'Éric Chavroux.
Vous pointez en particulier dans votre livre le rôle de Xavier Niel, ce qui peut être étonnant pour le grand public, parce qu'on en aurait plutôt une bonne image. Et là, on a vraiment l'impression qu'il est au centre de votre éviction.
C'est vrai que Xavier Niel jouit encore au sein du public d'une image de capitaliste cool et ouvert. La réalité est effectivement un peu autre. Je conseille aux auditeurs, je les renvoie à l'enquête de Politis qui n'est pas si ancienne, du début de l'année, je crois, où les méthodes managériales de l'entreprise Free étaient révélées et s'avéraient d'une extrême brutalité. Par ailleurs, ce qu'on sait, c'est que, et ça c'est écrit dans un livre à paraître très prochainement de deux journalistes, des Échos et de l'Express, une biographie de Xavier Niel. On sait que Xavier Niel a demandé au directeur de la rédaction de l'Obs d'opter entre les deux lignes qui, selon lui, s'affrontaient au sein du journal. La ligne gouvernementale et la ligne radicale, soi-disant radicale.
À votre avis, à votre avis, pour
quelle ligne a opté l'Obs ? Évidemment, pour la ligne Hollando-Valsienne, qui le condamne d'un point de vue économique. Qui le condamne d'un point de vue économique parce qu'elle n'intéresse plus qu'un village papou désormais. Donc, dans la mesure où quelqu'un comme Xavier Niel et les autres actionnaires sont des gens animés par une rationalité véritable, hein, on peut tout leur contester sauf ça, je vous le demande. Quelle est la raison de choisir la ligne gouvernementale ?
Ils ne sont pas si rationnels que ça peut-être alors.
C'est qu'il y a une autre raison.
Une autre raison.
Alors, une autre raison tout à fait rationnelle. Mais...
Qui est ? En un mot ? Les intérêts.
Nous avons des renseignements qui pointent effectivement une volonté, oui, de rassurer l'Élysée.
Et plus largement par rapport aux médias, là, Christophe Barbier vient d'être, je ne sais pas si écarté, enfin lui dit qu'il s'est retiré de l'Express, qui est dirigé par Patrick Drahi. Est-ce que là, pour vous, il y a une sorte de purge dans les médias ?
Non, je dirais pas ça, mais disons que c'est le même profil d'actionnaire, effectivement, hein, Drahi et Niel, c'est-à-dire qu'ils sont en lien avec l'État, hein, c'est-à-dire qu'ils opèrent sur un marché régulé par l'État, même si dans le cas de Xavier Niel, il le masque plus ou moins. Et effectivement, qu'est-ce qu'on constate ? Le cas de l'Express est extrêmement intéressant. Qui est-ce qu'on met à la tête de l'Express pour remplacer Christophe Barbier ? On met un profil de manager, on ne met pas un journaliste. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire, le signal inquiétant que ça envoie à la presse, qui est aujourd'hui largement entre les mains de ce genre d'actionnaires ?
Et finalement, la solution serait où, en particulier pour la presse de gauche, alors aujourd'hui ? C'est un modèle comme Mediapart ? C'est avoir un lien plus direct avec ses lecteurs ?
Je pense qu'on ne s'en sortira effectivement qu'avec les lecteurs et en leur donnant ce qu'ils ont, ce qu'ils attendent. Or, il y a une forte attente d'exigence, d'enquête, d'exigence intellectuelle chez les lecteurs. Elle est là. Les nombreuses études que nous avions réalisées à l'Obs le montraient. Et on ne donne pas aujourd'hui aux lecteurs ce qu'ils veulent lire parce que la presse est soumise à d'autres rationalités qui n'ont rien à voir.
Jamais je ne retournerai dans l'une de ces maisons centrales pour journalistes où l'on écrivait le mot liberté sur la grille d'entrée pour chaque jour mieux la saccager. Jamais plus je ne me contenterai de glisser la vérité seulement dans quelques interstices heureuses quand la chose n'était ni détectée ni réprimée. Jamais je n'accepterai plus longtemps l'humiliation d'avoir mon rond de serviette au milieu de tous ces auxiliaires d'une gauche trompeuse œuvrant sans relâche à la démolition de la vraie. Donc, vous arrêtez le journalisme?
Non, ce n'est pas un adieu à ce métier. C'est un adieu à ce type de journaux qui sont actuellement massacrés, soumis à des plans sociaux, car je le signale aussi, des plans sociaux sont en cours dans tous ces journaux. Pour retrouver une liberté de parole totale, en effet.
Aude Lancelin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc le titre de votre livre, Le Monde Libre, publié au Lien qui Libère. La météo, un temps très nuageux, des pluies sur les deux tiers du pays devenant très intenses et durables sur le Languedoc-Roussillon. D'ailleurs, l'Hérault, également une partie de l'Aude, sont en alerte orange concernant le risque de crues et de vagues submersion. Température 10 à 21 degrés. Édition réalisée avec François-Charles Domergue. Prochain journal 18h avec Tara Schlegel.